Juliette Turland, bonjour.
Bonjour Sophie, nous nous trouvons donc actuellement à l'agence SoHome, une entreprise d'organisation et d'architecture d'intérieur que vous avez créée rue Pasteur à Saint-Jean-en-Royon. Racontez-nous.
Oui, bonjour. Effectivement, j'ai monté mon agence avec ma fille dont on reparlera à Saint-Jean il y a maintenant quelques mois. Enfin, la structure juridique existe depuis quelques semaines seulement, mais j'ai démarré un petit peu en amont en septembre dernier avec le local ici que j'ai ouvert en novembre dernier. Et l'idée de cette agence, c'est la conjoncture en fait de plusieurs passions qui sont les miennes, à savoir l'habitat au sens large, les personnes, les familles et un public un petit peu particulier que sont les personnes âgées, les personnes handicapées.
Parce que vous proposez donc plusieurs types de services, peut-être qu'on peut détailler tout cela.
Oui, l'idée c'est vraiment d'améliorer l'habitat depuis le démarrage dans la vie active, enfin sur toutes les étapes de la vie en fait, de la vie qui s'émaille de situations différentes et qui du coup a un impact sur notre habitat. On dit souvent que l'habitat, c'est la troisième peau. Après le derme et puis les vêtements, l'habitat, bah, c'est la troisième peau. Donc il faut qu'on soit bien dans les deux premières, ça c'est une évidence, mais aussi dans cette troisième peau. Et notre cœur de métier, c'est vraiment de repenser les espaces qui soient le plus pratique possible, les plus facilitants pour la vie de tous les jours et qui permettent aussi de se libérer de certaines contraintes liées au nombre de mètres carrés en fonction de sa situation. Et c'est pour ça que l'on va depuis le premier logement jusqu'à la période un peu, j'aime pas trop dire fin de vie, mais en tout cas sur les dernières décennies, pour que le logement soit le plus pratique et permette aux 85% des personnes âgées qui souhaitent rester à domicile, par exemple, de pouvoir le faire parce que le logement est pensé et adapté pour des conditions de vie à la maison.
Vous accompagnez en quelque sorte les personnes aux différents stades de leur vie pour que l'habitat se prête le mieux possible en fait à leurs conditions de vie.
Oui, tout à fait. D'autant que parfois on ne pense pas à certaines reconfigurations qui permettent finalement de rester dans son logement. Je pense notamment à un couple de clients qui voulaient déménager parce qu'ils allaient avoir un bébé. Donc ils avaient un appartement de premier achat. Et finalement, en repensant les espaces, on a pu faire un coin bébé parce qu'on a libéré le bureau qui est devenu la chambre du bébé et le coin bureau, on l'a pensé autrement, ailleurs. Et ça a permis à ce couple, finalement, dans les premières années de la vie de leur vie de couple avec deux parents, de ne pas déménager. Donc ça leur a fait économiser pas mal puisqu'ils n'ont pas eu besoin d'acheter un nouveau bien, de déménager, etc.
Vous vous adressez donc à vraiment tout type de public?
Oui, alors les familles en général, et puis on a vraiment une spécificité sur l'adaptation des logements, personnes âgées, personnes handicapées. Ça, c'est lié à mon parcours passé. Voilà. Donc du coup, on a ce focus particulier sur cette catégorie de population auquel je tiens beaucoup.
Parce que donc, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vous intéresser à cette population particulière ?
Alors, moi, j'ai un passé un petit peu dans le secteur gérontologique, médico-social au sens large. J'ai été longtemps directrice d'EHPAD et directrice des exploitations d'un groupe d'EHPAD. Et dernièrement, j'étais directrice au département de la Drôme en tant que directrice de l'autonomie. Donc j'ai été un petit peu sur les deux facettes du secteur de la gérontologie, à la fois prestataire de services et à la fois financeur de l'autre côté, tant personne âgée que personne handicapée. Voilà. Et je continue par exemple à titre personnel d'être dans une association à titre bénévole dans des séjours adaptés pour personnes cérébro-lésées par exemple.
Et qu'est-ce qui vous a amené à monter votre agence à Saint-Jean ?
Alors, à Saint-Jean, parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour ce village. On a habité dans plusieurs endroits en Drôme et on a décidé de s'implanter sur Saint-Jean. Et pourquoi l'agence, à un moment donné, j'avais vraiment envie d'entreprendre, depuis très longtemps. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs au féminin. Mon arrière-grand-mère était chef d'entreprise pendant la guerre. Elle s'appelait Marx, donc on ne pouvait pas faire plus juif. Et voilà, son client principal était allemand. Donc c'était une petite anecdote historique que j'aime bien rappeler parce que vraiment, elle a bravé toutes les difficultés. Et ça a sauté juste une génération. Mais en tout cas, nous, on a eu envie de reprendre aussi ce flambeau, même si c'est pas la même entreprise. Et en plus avec ma fille, donc ça sera la quatrième génération, si on exclut celle de ma maman, cinquième en tout, qui entreprenons dans... Voilà. Donc du coup, j'avais vraiment cette fibre quelque part un petit peu. Et puis l'envie d'être au plus près finalement des utilisateurs finaux, d'être au contact des gens, d'aller chez eux et d'apporter concrètement une aide. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'anime un petit peu depuis toujours. J'ai été sapeur-pompier dans ma jeunesse. Le côté aide directe m'interpelle vraiment beaucoup. Et puis, il y a cette notion aussi d'habitat dont je parlais. Donc, ça, en fait, il y a un triptyque, hein, entre la famille, en plus, entreprendre avec ma fille, l'habitat et puis le secteur un peu social. Et l'habitat, en fait, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. Il y a peu de temps, il a fallu recomposer un habitat avec mon mari qui avait deux enfants, j'en avais trois. Donc on s'est retrouvé avec cinq enfants à la maison il y a une petite dizaine d'années. Et à un moment donné, il a fallu concilier un peu nos deux lots de mobilier. On n'a pas acheté un château pour autant, hein. On avait une maison que l'on a gardée, mais il fallait que chacun trouve sa place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au home organizing. C'est déjà comment on refait un nouvel ensemble de mobilier en partant de deux lots des deux parents qui étaient totalement différents pour faire quelque chose d'harmonieux et puis surtout de répartir les choses pour que ça soit équitable, en tout cas, voilà. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment animée, c'était de que chacun des cinq enfants trouve sa place malgré finalement c'était pas un manque d'espace parce qu'il faut pas exagérer, mais en tout cas avec un mode de vie différent. Et donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au home organizing, à me former avec une formatrice belge et du coup à m'intéresser à tout ce qui tourne autour, l'économie circulaire, le réemploi des objets et le zéro déchet, mais sans être jusqu'au boutiste. Moi, je mets toujours le curseur un petit peu au milieu, en fait.
Donc c'est vraiment votre expérience personnelle qui a inspiré votre trajectoire professionnelle, si je comprends bien.
Oui, c'est exactement ça. Et à un moment donné, je me suis dit, et puis j'ai rénové des appartements. Ça aussi, ça fait partie des raisons. J'ai rénové des appartements. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Et là encore, il fallait repenser les fonctionnalités des pièces. Donc là, c'est là où se rejoint aussi le home organizing dans l'architecture d'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut penser à ce qu'on va faire des pièces après la rénovation. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Mélanger du home organizing, de l'architecture d'intérieur. Et pour ne pas couper avec mon passé, me spécialiser, sans exclure les familles, puisque c'est aussi mon cœur de vie personnel, mettre un accent assez fort sur le handicap ou la perte d'autonomie au sens large.
On peut peut-être préciser pour nos auditeurs, justement, vous proposez donc deux prestations différentes qui sont le home organizing et l'architecture d'intérieur. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence entre les deux ?
Oui, alors le home organizing, c'est un mot pas très joli anglais, mais j'ai du mal à trouver un équivalent qui résume vraiment ce que c'est que le home organizing. En gros, c'est de l'organisation intérieure. Donc c'est comment, d'abord, on désencombre, on trie et on range. On dit souvent que le bazar ne se range pas, il s'élimine. Donc avant même de repenser aux fonctionnalités en termes de rangement, il faut déjà faire tout un travail de désencombrement et de repenser aux besoins vitaux des objets, parce qu'on en possède vraiment beaucoup trop. En moyenne, il y a 300 000 objets dans une maison moyenne, hein. Alors évidemment, il y a toujours des différences entre un studio et un château, mais 300 000 objets, alors pareil, hein, on va de la petite cuillère à l'armoire normande, hein, donc c'est tout objet confondu, mais c'est énorme. Et quand on fait ces prestations de désencombrement, une des techniques, c'est de rassembler la même catégorie pour montrer à la personne en face la quantité d'objets similaires qu'elle peut posséder. Et parfois, on a des grandes surprises. On était chez des clients à un moment donné, ils avaient 200 assiettes à peu près. Donc, une fois qu'on va chercher le service dans le buffet, dans la cuisine, etc., on se rend compte à quel point on a d'objets. Donc, c'est déjà ce grand tri qui est vraiment indispensable avant même de repenser à comment on organise la pièce et comment on la rend plus pratique. Parfois, on réinterroge même les fonctionnalités des pièces parce que voilà, les maisons des années 60, par exemple, n'ont pas du tout la même configuration qu'une maison actuelle. Et on s'intéresse vraiment au parcours de l'habitant. Déjà, on part de l'ensemble des cohabitants de la maison. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas que à madame, parce que c'est souvent elle, pardon, qui vient nous voir. Mais on creuse les modes de vie des personnes pour savoir comment elles vivent dans leur maison et qu'on détermine finalement les points saillants et ce qui est important de conserver et finalement ce qui l'est moins. Et de potentiellement repenser carrément les fonctionnalités des pièces. Parce qu'on a aussi beaucoup de pièces mortes. C'est-à-dire des pièces qui sont plus utilisées ou très très occasionnellement, comme les chambres d'amis ou les anciennes chambres des enfants quand les enfants s'en vont. Donc c'est toutes ces pièces-là qu'on repense pour leur redonner vie et puis qu'elles soient le plus fonctionnelles possible en fonction de la situation des cohabitants du moment. Et donc ça, c'est toute la partie home organizing. Donc c'est aussi des prestations, donc je vous le disais, pour quand on change de logement. Quelqu'un qui veut changer de logement, la préparation au déménagement aussi permet de faire ce tri en amont. On a plutôt tendance à faire les cartons et à dire on verra bien après et d'entasser les cartons dans le garage ou le grenier. Et puis finalement, ils y restent la nuit des temps. Alors que si on fait ce travail-là avant, bah, déjà on gagne un petit peu en argent aussi, hein, puisque c'est autant de volume à ne pas déménager et pas facturer quand on fait appel à un déménageur. Et puis ça permet de s'alléger. Et de partir avec l'essentiel sur le nouveau logement où on écrit une nouvelle page de vie, une nouvelle tranche de vie. On peut aussi intervenir quand malheureusement il y a un décès et que les héritiers qui sont déjà impactés par le deuil se retrouvent à devoir trier une maison. Donc là, on les aide à faire la part des choses parce qu'ils ont plutôt tendance à tout garder, à décorréler, si vous voulez, les objets de la personne. Ça, c'est important. Et souvent, on leur dit, ben voilà, le fait de d'éliminer un certain nombre d'objets, enfin, quand je dis éliminer, ça peut être vendre, ça peut être donner, ça peut être jeter si c'est vraiment trop abîmé. Quand on se libère de certains objets, c'est pas pour autant qu'on pense moins à la personne qui, dans le cas que j'évoquais, est décédée, par exemple. Et puis, on peut aussi intervenir pour des familles qui sont complètement débordées. Et ça, on en a beaucoup, beaucoup, dépassées par les enfants, enfin par la vie quotidienne avec les enfants. Y a des objets partout, les objets n'ont pas leur place, il y en a trop, ça déborde, voilà. Et du coup, on intervient pour vraiment organiser les choses. Et là, on est vraiment sur la partie organisationnelle. Là encore, hein, il y a toujours un processus de tri en amont, parce que, je le répète, hein, le bazar ne se range pas, il s'élimine. Et ensuite, on aide ces familles-là à trouver un mode de fonctionnement qui soit plus agréable et plus fonctionnel. Et la partie, donc, on a une autre activité qui est celle de l'architecture d'intérieur. Donc là, c'est extrêmement classique. Enfin, on confond souvent, hein, l'architecture d'intérieur et la décoration intérieure. Donc si vous voulez faire appel aux meilleurs designers new-yorkais, faut pas venir nous voir. Nous, on est vraiment là sur, encore une fois, on travaille sur plan, on vient faire des maîtrés. Alors soit à domicile, soit quand on est trop loin, les personnes font leur maîtrise, on les guide pour pouvoir faire leur maîtrise elles-mêmes. Et à partir de là, on travaille sur un plan que l'on appelle un état des lieux. Et là, en fonction des besoins qui ont émergé, parce qu'on passe encore une fois beaucoup de temps en amont avec les clients pour toujours, toujours, toujours bien comprendre le fonctionnement de la famille ou de la personne qui nous fait intervenir. On établit un cahier des charges très très poussé, ça va même jusqu'aux habitudes du chat, hein, on l'oublie pas. Et à partir de là, on fait des propositions d'aménagement, en général trois, que l'on appelle des avant-projets sommaires. On peut s'arrêter à ce stade-là. Enfin, certains clients s'arrêtent juste à ce stade. Ils veulent juste des idées. Mais les stades suivants, c'est un avant-projet détaillé. Parce que donc là, on a fait un petit peu la synthèse des avantages et des inconvénients des trois propositions qu'on a faites avec le client, qui nous dit bah, ça, on a aimé, mais ça, on a beaucoup moins aimé. On fait une quatrième proposition qui s'appelle donc l'avant-projet détaillé. Et ça peut aller jusqu'au plan d'éclairage, au dossier de consultation des entreprises. Et plus tard, on le fait pas pour l'instant, mais ça viendra, le suivi de chantier.
Si on peut revenir sur le home organizing et le tri des objets, que fait-on ensuite de tous ces objets dont on a décidé de se débarrasser ?
Alors, on a un petit ennemi qui s'appelle le « au cas où ». Donc ça, c'est une phrase qu'on entend absolument systématiquement, le « au cas où ». Au cas où, quoi. On perd nos 15 kilos, mais le vêtement sera démodé. Là, on garde au cas où une petite pièce pour réparer, mais finalement, l'objet n'est jamais réparé. Donc en fait, on prend chaque objet. On ne prend pas la décision, nous, en tant que home organizer. Hein. On aide les personnes, mais en aucun cas, on est décisionnaire du devenir de l'objet. Si l'objet est vraiment abîmé, et au cas où on trouverait la pièce qui permet de le réparer, ben dans ce cas-là, il faut aller dans un repair café. On essaye vraiment de le faire réparer, si c'est pas, ou une recyclerie adaptée. Sinon, ben voilà, cet objet a vocation à être mis en recyclerie pour des jours meilleurs, éventuellement. Ça peut être du don. On a aussi un certain nombre d'applications ou d'associations que l'on conseille à nos clients pour donner. Par rapport au don, il y a aussi la recyclerie, hein, de Saint-Laurent notamment et de la Chapelle. Et puis, il y a aussi des objets que l'on conseille de vendre, notamment tout ce qui est un peu des objets que l'on peut retrouver dans des brocantes ou chez les antiquaires ou dans des, voilà, des vides-greniers. Enfin, il y a tout un tas de techniques pour pouvoir redonner une seconde vie aux objets qui ne sont plus utilisés par la famille en question et qui permettent non seulement de désencombrer, mais aussi de faire une bonne action auprès d'une personne qui, elle, en aurait besoin.
On parlait de tri des objets, de trier ces objets de manière écologique pour le home organizing. Est-ce que c'est un critère, donc l'écologie, que vous prenez en compte aussi pour l'architecture d'intérieur ?
Dans la mesure du possible, oui. C'est-à-dire qu'on réutilise les objets au maximum du client pour limiter les achats. Ou alors lui conseiller des achats de seconde main. On essaye vraiment de mettre le plus possible d'écologie dans de d'éco-responsabilité, j'ai envie de dire plutôt, dans notre approche sur les deux activités. Et sur l'architecture d'intérieur, là encore, ça dépend des moyens du client, mais on favorise les peintures végétales sur certaines pièces. Mais faut pas se leurrer, on est sur des tarifs qui avoisinent les 40 euros par litre de peinture quand elles sont végétales, versus moins de 10 euros sur une peinture classique. Donc on essaye malgré tout d'être le plus possible sur des matériaux éco-responsables, réutiliser des objets et des matériaux que les personnes possèdent déjà plutôt que d'aller en acheter d'autres. Et puis après, il y a des matériothèques aussi qui existent comme Mineca à Grenoble ou d'autres qui permettent d'acheter des matériaux de base de seconde main. Et donc c'est une approche que l'on a, mais sans être dans une rénovation totalement écologique pour des raisons encore d'accessibilité financière et parfois pratico-pratique. Mais en tout cas, c'est une approche que l'on essaye d'avoir de façon systématique. Oui.
Que pensez-vous du minimalisme ?
Alors, le minimalisme, pour moi, c'est l'extrême qui n'est pas ma façon de faire. Nous, on met toujours le curseur au milieu et c'est un petit peu mon tempérament à moi et Clément, c'est un peu comme ça. C'est de toujours d'être dans le juste milieu. C'est-à-dire que quand je parle de désencombrement et d'élimination des objets, c'est pas se dépouiller de plus rien avoir et d'avoir voilà une maison qui ne vit pas. C'est pas ça le sujet pour moi. Voilà, on vit beaucoup mieux avec moins d'objets. Et à chaque fois qu'on est intervenu, même physiquement, on voit un impact sur les gens parce que on s'en rend pas compte, mais il y a une vraie charge mentale. Enfin, voilà, on en parle beaucoup de charge mentale, mais pour le coup, c'est vrai, qui est liée aux objets parce que dans le champ visuel, il y a trop de choses qui impactent vraiment sur le quotidien parce que pour faire le ménage, c'est compliqué, pour trouver quelque chose, c'est compliqué. On remue ciel et terre pour trouver l'objet qu'on avait pourtant vu 3 jours auparavant. Donc tout ça, ça fait travailler le cerveau, on s'en rend pas compte, mais c'est lourd. Donc le fait de limiter les possessions permet justement cet allègement mental et cette facilité pour tout, dans le quotidien, dans le ménage, etc. Pour autant, vivre voilà, comme un moine, c'est pas forcément notre tasse de thé. Donc voilà, mettre le curseur au juste milieu en fonction des besoins de chacun. Et après, voilà, si un client nous dit ben, « moi, je veux vivre vraiment avec le minimum », on se plie aussi aux souhaits et aux besoins du client. Hein. Ma perception des choses, c'est de ne pas être trop extrémiste, mais en tout cas de consommer mieux mais moins, ça c'est évident.
Vous parliez tout à l'heure de votre fille Clémence qui travaillait avec vous. Est-ce qu'on peut revenir sur cette aventure entrepreneuriale mère-fille ?
Oui, alors ça fait partie des faisceaux dont je parlais tout à l'heure, entre ce qui m'animait, moi, à titre personnel, en termes de secteur d'activité, et puis le fait de travailler en famille. C'est venu un petit peu naturellement quand j'ai commencé à parler de vouloir monter mon entreprise. Dans la conversation, voilà, c'est venu comme ça et on s'est dit bah banco, on va travailler ensemble, même si géographiquement on a une petite centaine de kilomètres d'écart. Alors pas à vol d'oiseau, hein, elle est juste de l'autre côté du Vercors à 28 kilomètres, mais en voiture il faut faire le tour. Et en fait, elle s'est formée aux mêmes choses que moi, mais avec des formatrices différentes pour avoir du coup une approche un petit peu différente. Donc elle est aussi formée au home organizing. J'en ai pas parlé, mais on est formé aussi au home staging, c'est-à-dire de désencombrer aussi les maisons dans le cadre d'une vente, voilà, pour travailler avec les agences immobilières, par exemple. Et elle se forme aussi à l'architecture d'intérieur. Et d'ailleurs, elle pousse un petit peu plus la technique que moi. Je suis plus sur la création de l'entreprise actuellement. Et elle est encore sur des formations plus pointues en architecture d'intérieur. Et du coup, elle prend un peu le lead sur le côté technique. Quand moi, je suis un tout petit peu plus sur le côté entrepreneurial.
Et elle travaille donc sur le secteur du Trièves, je crois.
Oui, entre Monestier et Vif, Monestier de Clermont et Vif. Mais on travaille ensemble, en fait, surtout au démarrage. En plus, on a des dossiers communs. De toute façon, on a beaucoup de prestations qui peuvent se faire à distance. Quand bien même on va au domicile des clients, toute la phase de création en architecture d'intérieur, notamment, se fait dans son bureau, en fait. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'une proximité permanente ensemble. Et voilà, on travaille comme ça.
Et est-ce qu'on peut parler des modalités pratiques, c'est-à-dire quelle est votre zone d'intervention géographique et quels sont vos tarifs ?
Alors géographiquement, quand on va à domicile des personnes, on se donne un petit rayon de 50 km l'une et l'autre. Donc 50 km de Vif, ça englobe toute la vallée de Grenoble hein, quand même, c'est énorme. Et puis, et de mon côté, on a un client en Ardèche. Voilà, ça fait un peu plus de 50, mais il n'y a pas de souci, on le fait. Et puis toutes les prestations, parce qu'on fait du coaching à distance aussi en termes de sur l'organisation intérieure, on peut faire un plan d'action aux clients à distance, donc il y a une visio qui se fait en amont, des photos, et sur cette base-là, on peut travailler à distance. Et en architecture d'intérieur, c'est pareil. On peut, dans la mesure où il n'y a pas de suivi de chantier, etc., quand on n'est que sur la partie créative et proposition d'aménagement, on fait faire le maîtré par le client, comme je le disais tout à l'heure, et on travaille beaucoup sur photos, sur visio, et donc on peut faire les choses à distance. Donc, partant de ce principe-là, il n'y a pas de limite géographique. C'est vraiment que lorsqu'on a un rendez-vous client à domicile qu'on se limite à aller 50, 60, 70 km maximum, quoi.
Et au niveau des tarifs, combien faut-il compter pour faire appel à vos services ?
Alors, les prestations sont très, très variables. Sur le home organizing, quand on intervient à domicile, on est à peu près sur du 60-65 euros de l'heure, mais on peut travailler qu'à la demi-journée pour lancer la méthodologie auprès et d'apprendre la méthodologie au client. On peut avoir aussi du coaching, comme je le disais, à distance, avec des rendez-vous une heure par mois ou une heure par quinzaine, avec un plan d'action qui est révisé au fur et à mesure de l'avancée de la personne de son côté toute seule. Donc là aussi, on compte que 60 euros pour le mois. On travaille sur un système d'abonnement. On part sur une idée de 3 mois, 6 mois, 9 mois, avec un tarif dégressif qui va jusqu'à 50 euros seulement par mois si on est sur une durée de 6-12 mois. Et puis côté architecture d'intérieur, donc là c'est beaucoup plus compliqué de donner un ordre de prix parce que ça dépend aussi de la taille de l'habitat qu'il faut travailler. On peut être sur une pièce ou deux comme sur une maison entière. grosso modo, on est aussi sur du 60 euros de l'heure, 65 euros de l'heure. Mais là, c'est un travail qui est extrêmement long, l'architecture d'intérieur. Et donc, on coupe les étapes, c'est-à-dire qu'on peut être que sur des propositions d'aménagement, ce qu'on appelle les avant-projets sommaires. S'arrêter là, donc on est sur du à peu près, il faut compter à peu près. Allez, environ 800 euros, 800-900. Après, sur, quand on va jusqu'à l'avant-projet détaillé, on est sur un peu plus de 1000 euros. Et puis après, ça, voilà, ça dépend aussi si on fait la shopping list, si, enfin, il y a tout un tas de prestations connexes, le dossier de consultation des entreprises. Et là, c'est vraiment sur devis parce que voilà, donner une fourchette, c'est pas évident.
Eh bien, merci beaucoup Sophie pour de nous avoir reçus à l'agence SOHOM, donc je le rappelle à Saint-Jean-Royan aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des manières de vous contacter? Quels sont vos horaires d'ouverture? Est-ce qu'on peut vous rejoindre sur votre site internet par exemple?
Alors, on a à la fois un site pour SOHOM qui présente un petit peu nos prestations. Donc, c'est www.sohomservice.com. On a un blog qu'on vient d'ouvrir là très récemment qui s'appelle Ma Maison Évolue avec des traits d'union entre ma maison et évolue, sans accent.com. L'agence, il n'y a pas vraiment d'horaire parce que quand je suis à domicile, bah forcément le magasin est fermé, mon numéro de téléphone est le 06 02 16 02 76. Et sur le site, il y a aussi nos adresses e-mail. Donc c'est soit sophie.sohom@gmail.com, soit clémence sans accent point sohom@gmail.com. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup.